On va la prendre, c'est correct, on va commencer. On va prendre sa Bible, on va faire une déclaration de la foi que nous aimons faire ici. On va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen, amen. Donc aujourd'hui, on a vu déjà des bonnes choses ici à l'église, bon témoignage de la part de Nicole et Alain, des bonnes choses que le Seigneur est en train de faire, un bon temps de prière avec imposition des mains. Et je crois que des cœurs ont été touchés, des corps ont été guéris, et le Seigneur est à l'œuvre. Et j'ai quand même dans mon esprit un message qui est simple, qu'on veut regarder ensemble, parce que je sais que c'est une chose dont nous avons besoin. En fait, le titre est simple, c'est « Tenir ferme ». Et je crois que nous vivons dans un temps où les choses sont pas mal bousculées. On voit les choses qui tremblent autour de nous. Il y avait même un tremblement de terre au Mexique hier, je pense, n'est-ce pas, ou avant-hier. Et donc, il y a des choses qui tremblent même littéralement. Mais plus que ça, juste dans notre société, les choses brassent. On voit de plus en plus des choses qui se passent dans le monde et même ici au Québec, ici à Drummondville et dans la vie de chaque personne individuellement. On a besoin d'apprendre comment tenir ferme dans ces jours. Je crois que les chrétiens, les hommes et les femmes de Dieu, nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde et nous sommes appelés à être une source de stabilité dans un monde qui est bousculé, n'est-ce pas? Et c'est pas toujours évident parce que les choses brassent, pas juste dans le monde, mais même dans la vie des chrétiens, ça brasse des fois. Vous êtes d'accord? Et on a besoin d'apprendre comment tenir ferme. Et le message que j'ai dans mon cœur, c'est simple. Et en fait, c'est vraiment simple. Un verset de la parole de Dieu qu'on va regarder avec quelques autres exemples pour la soutenir. Mais en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, on voit ici une clé pour comment tenir ferme dans les moments difficiles. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc encore, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment tenir ferme en face de notre ennemi. Amen. Mais pour cela, il faut comprendre, premièrement, que nous avons un ennemi. Dans ce verset, nous voyons plusieurs choses. Premièrement, la première chose que nous voyons, c'est que vous avez un adversaire. Et ça, c'est pas une chose qu'on aime dire trop souvent. On n'aime pas mettre l'accent là-dessus. Et en fait, il y a beaucoup des églises où on parle jamais de l'adversaire. On parle presque jamais du diable. Et puis, il y a d'autres personnes, et ils font l'extrême de l'autre côté. Ils vont parler seulement du diable. Et voilà qu'est-ce que je veux aujourd'hui, c'est d'amener d'une manière équilibrée ce message où on peut finir par comprendre que nous avons un adversaire, mais en même temps comprendre que notre adversaire est déjà vaincu. Amen. Pour quelques-uns, comme je dis, tout est le diable. Le diable ceci, le diable cela. Et tout est la faute du diable. Et pour eux, ils parlent du diable, le diable est énorme, il est un grand diable et un petit Dieu. Avez-vous déjà rencontré des personnes comme ça? Oh, cette semaine, le diable m'a donné des deux troubles, hein? Béni soit son nom. Non. Mais ils parlent, hein? Ils vont parler, ils vont donner des témoignages de Dieu, et puis, mais ils vont mélanger tout, ils sont confus, parce qu'ils parlent trop du diable et de Satan et de son œuvre. Et il y a l'autre côté, par exemple, des personnes qui vont comme ignorer. Ils vont jamais penser à Satan. Ils vont jamais penser que nous avons quand même un ennemi qui est vrai. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans une zone de combat ici sur la terre. Amen. En fait, la Bible dit que Satan, il s'appelle le Dieu de ce siècle. Et selon 2 Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Donc, Satan est vrai. On sait c'est qui, n'est-ce pas? On n'a pas le temps de faire toute une étude. On pourrait parler pendant des semaines concernant le combat spirituel, les anges, les démons et tout cela. Mais sachez tout simplement que Satan, il était Lucifer. Lucifer qui était un des archanges qui était créé par Dieu pour sa gloire, n'est-ce pas? On sait qu'il y a d'autres archanges. On a Gabriel qui est l'ange messager et c'est lui qui souvent est envoyé donner les messages. On a Michael qui est un ange de guerre, n'est-ce pas? Et puis il y avait Lucifer et selon l'évidence de la parole de Dieu, Lucifer était probablement celui qui dirigeait la louange au ciel, parmi les anges. C'est quelqu'un qui est... C'était un être spirituel créé par Dieu et pour Dieu. Est-ce que c'est étonnant qu'aujourd'hui, le diable utilise la musique? C'est pas étonnant, hein? On voit la description de Lucifer. Il était toute beauté, mais intégré dans son corps, si vous voulez, il y avait des instruments musicaux intégrés dans son corps. C'est un ange qui était créé par Dieu et pour Dieu, en toute beauté. Et en fait, c'était seulement son orgueil. Par orgueil, il commençait à penser, « Moi, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. » Et c'est l'orgueil qui a fait en sorte qu'il était jeté du ciel et il est devenu maintenant notre adversaire. Mais il n'est pas juste notre adversaire. Ce qu'il faut comprendre, il est l'adversaire de Dieu lui-même. Est-ce que le diable vous aime? Non. Est-ce qu'il vous déteste? Oui. Mais il y a quelqu'un que le diable déteste plus que vous. Et ça, c'est Dieu lui-même. Et il sait que s'il peut vous toucher, vous déranger, vous faire mal, ça, c'est une manière qu'il peut éventuellement faire mal à Dieu notre Père. Donc, quand le diable vous attaque, c'est pas vraiment vous qui est le cible, c'est Dieu lui-même. Et il faut qu'on soit conscient de cela. Il faut qu'on soit conscient que nous avons un adversaire. C'est quoi un adversaire? C'est une personne qui s'oppose à un autre dans un conflit. Savez-vous que vous êtes dans un conflit? Hein? Vous êtes pour la lumière, il est pour les ténèbres. Vous êtes pour la vie, il est pour la mort. Vous êtes pour la bénédiction, il est pour la malédiction. Vous avez un adversaire. Et voilà une révélation. Mesdames, votre adversaire, c'est pas votre mari. Messieurs, votre adversaire, c'est pas votre femme. J'ai une autre révélation, messieurs, mesdames. C'est pas votre contremaître qui est votre adversaire. C'est pas votre patron qui est votre adversaire. C'est pas l'homme de Revenu Canada qui est votre adversaire. C'est pas le facteur qui est votre adversaire. Il y a des gens qui pensent ça, hein? Mais à chaque fois, ce méchant facteur, il arrive avec les choses que je dois payer. Hein, il n'est pas gentil, hein? C'est pas grand monde, des fois, on n'est pas toujours content de voir monsieur du Canada Post arriver. Mais c'est pas de sa faute, vous êtes d'accord? C'est pas ceux qui travaillent pour Hydro-Québec non plus, qui c'est pas de leur faute que vous avez une facture à payer. Hein, c'est juste la réalité de la vie, n'est-ce pas? Hein, quand vous achetez l'essence, ou vous achetez votre nourriture à la pizzerie, c'est pas la faute de la caissière que vous avez besoin de payer deux fois plus cher pour les mêmes tomates que vous avez payées l'année passée. Vous êtes d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas se venger, hein. Il faut pas blâmer la caissière ou faire en sorte que c'est de sa faute. Mais notre adversaire n'est pas dans le domaine naturel. Notre adversaire, il est dans le domaine spirituel. Il y a un verset de la parole de Dieu, en Éphésiens 6, 11, qui dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir faire quoi? Tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Et c'est un adversaire, pas imaginaire, mais réel. Nous sommes les êtres naturels, mais nous sommes d'abord et avant tout, nous sommes les êtres spirituels. Et ce qui se passe dans le domaine spirituel est aussi vrai et dans un sens plus vrai que ce qui se passe dans le domaine naturel. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que nous voyons a été créé, et ce qui est visible aujourd'hui a été créé par ce qui est invisible. Le monde de l'esprit a existé avant le monde naturel. Le monde de l'esprit va exister après le monde naturel aussi. Un jour, tout ce que nous voyons va disparaître, ça va être brûlé. Mais les esprits qui sont en arrière de tout cela vont continuer. Savez-vous que vous êtes un être éternel? Vous êtes un esprit. Vous allez exister éternellement. Veux, veux pas. Moi, j'ai déjà entendu les personnes dire, mais j'aime pas ça, je veux pas vivre éternellement. Désolé, vous allez vivre éternellement. Vous pouvez pas changer ça. Mais la question, c'est où est-ce que vous allez vivre éternellement? Avec le Seigneur au ciel ou à l'enfer avec votre adversaire? Qu'est-ce que vous choisirez? Le ciel, c'est un bon choix. Mais on voit ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Savez-vous qu'il y a toute une armée des esprits méchants qui ont été relâchés contre nous? On sait que nous avons un adversaire, Satan. Moi, j'ose dire que la plupart de nous, nous avons soit jamais ou rarement rencontré Satan lui-même. À moins que vous soyez quelqu'un qui a eu énormément d'influence déjà dans le royaume de Dieu, il est peu probable que Satan est allé vous rendre visite en personne. Mais il n'a pas besoin de le faire. Parce que il a des milliers d'émissaires, des milliers de personnes qui travaillent avec et pour lui. N'est-ce pas vrai? Donc, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il ne faut pas ignorer cela, que Satan, notre adversaire, il a toute une armée, et Satan est rusé. Il ne se promène pas non plus avec les cornes ou avec une fourche. Hein, moi, j'ai fait des progrès, hein. Tu sais, quand j'ai commencé à prêcher en français, il y a des gens qui étaient là. Une fois, j'ai dit, Satan se promène pas avec des cornets sur la tête. Hein, c'est vrai, des cornets et une fourchette. Les cornets sur la tête et une fourchette, hein. Avec un habit rouge. Non, mais il se déguise comme un ange de lumière. Il est très attirant. Il est beau. Il est un chanteur de pommes, si vous voulez. Il va dire toutes des belles choses. Il va vous flatter. Il va vous dire que vous êtes le meilleur, qu'il n'y a personne comme vous sur la planète Terre. Ça, c'est les tactiques de notre adversaire. Il est un ange, il se déguise comme un ange de lumière, OK? Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, le problème, c'est pas avec la personne. Le problème, c'est avec l'esprit qui est en arrière d'une personne. Jésus l'a su. On voit Jésus, quand il parle avec Pierre, et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il a dit, ah, Pierre, c'est pas la chair, le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Voilà, tu as une étoile aujourd'hui, élève de la journée. Sauf que, n'est-ce pas intéressant que la même personne, le même homme, fut inspiré par Dieu une minute. Et quelques minutes plus tard, quand Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que je sois livré, il faut que je sois crucifié, qu'il a dit, oh, jamais, jamais, tu vas jamais faire ça, Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Wow, quelque chose. Tu vois, c'est subtil des fois. La même personne qui est inspirée, qui reçoit une révélation de l'Esprit Saint, et qui croit vraiment que, il a dit la bonne chose, quelques minutes plus tard, il dit quelque chose inspiré par Satan. Et c'était quoi l'inspiration? C'était, comment est-ce qu'il a réussi à vendre son idée à Pierre? C'était une idée gentille. Oh, mais ça, c'est pas bon. Tu veux pas que ton maître soit battu? Tu ne veux pas qu'il souffre? Tu ne veux pas qu'il meure, tu ne veux pas qu'il perde cette belle occasion d'établir un royaume. Donc, c'est avec des choses positives. Tu comprends comment il travaille, Satan, il est rusé. On pourrait dire que, ah, oh, et c'est exactement comme ça qu'il travaille aujourd'hui. C'est exactement comme ça aujourd'hui. on peut pas juger les gens qui font ça. Oh, mais écoute, qui sommes-nous pour dire que ça, c'est pas correct? On va être, tout le monde est gentil avec le péché, n'est-ce pas? On dit que si jamais quelqu'un dit un mot contre le péché, on va dire, ça, c'est de la haine. N'est-ce pas vrai? Il est rusé. Il va toujours peinturer une image qui est beau, qui est merveilleuse, et c'est comme ça qu'il va essayer de nous convaincre notre adversaire. Mais nous avons un adversaire, et qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce que cela veut dire, rôder? On a la définition, c'est d'aller et venir d'une façon suspecte dans un but souvent hostile. Donc on voit, il essaie de chercher les occasions où il peut sauter sur nous. Il rôde comme un lion. Vous avez déjà vu les documentaires des lions en Afrique qui sont à la chasse. Ils cherchent leur proie. Ils vont rôder. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver quelqu'un s'il veut manger un zèbre pour dîner. Ils vont trouver le troupeau des zèbres. Il va trouver le zèbre qui est faible ou qui est à l'écart des autres. Et sa stratégie, c'est quoi? C'est de faire peur et afin qu'il s'éloigne davantage du troupeau et que le troupeau s'éloigne de celui qui traîne la patte et puis il va avoir sa proie. Il fait la même chose avec les chrétiens, vous savez. Il va viser les chrétiens qui sont un peu éloignés, qui sont pas vraiment en unité dans l'église locale. Il va essayer de les séparer davantage de l'église locale et puis il va les avoir. Vous m'entendez? Donc, il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il est comme un lion. Comme on dit souvent, il n'a plus de dents. Il va rugir, il va faire beaucoup de bruit, il va essayer de nous faire peur, mais il n'a plus de dents parce que Jésus l'a désarmé. Jésus l'a déjà vaincu. Satan est déjà vaincu. Tout le monde dit, mon adversaire est déjà vaincu. Et oui, c'est vrai, j'ai dit que il y a des milliers d'anges déchus qui sont maintenant des démons aujourd'hui. Mais savez-vous quoi? Que quand Satan a révolté contre Dieu, et quand il était jeté du ciel, il a pris combien d'anges avec lui? Un tiers. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux anges pour chaque démon. Et qui dit, est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible qui dit que Dieu a arrêté de créer des anges depuis? On sait qu'il y a au minimum de deux fois plus d'anges que démons, et chaque ange est plus fort que les démons, de toute façon, n'est-ce pas? Est-ce que Satan a du pouvoir? Oui, mais son pouvoir est limité. Et maintenant, son pouvoir est limité seulement à ce que tu lui donnes, parce qu'il n'a plus le droit de vous déranger si vous êtes en Jésus-Christ. Donc, il rôde comme un lion rugissant, et on va continuer, parce que je veux garder ma parole. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il cherche, et juste le verset que j'ai mis là, c'est Job 2:2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Savez-vous quoi? Le diable, il se promène avec ses émissaires, et qu'est-ce qu'ils font du trouble? Ils sont des faiseurs de trouble. Ça me fait penser à une gang de jeunes qui n'ont pas rien à bon à faire, mais ils vont juste se promener à minuit, 1h, 2h du matin, et se promener dans les rues, juste chercher des choses à faire. Bon, on peut taguer une bâtiment, on peut faire un peu de graffiti ici, on peut briser une fenêtre là, on peut voler ici, on peut faire cela. Donc, c'était un peu l'idée qu'on a de Satan. Mais lui, il est beaucoup plus méchant. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche pas à faire du graffiti. Lui, il cherche premièrement, tu sais qu'est-ce qu'il aime le plus? Le meurtre. Pourquoi? La Bible dit, Satan est meurtrier, il est menteur, il est meurtrier dès le commencement. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à vous dévorer. Et le mot dévorer, c'est vraiment quelque chose. J'ai regardé dans le dictionnaire et la définition. Dévorer, c'est de manger en déchirant avec les dents. C'est pas gentil, hein? Il n'utilise même pas une fourchette. C'est dégueulasse. Je vais vous déchirer avec les dents, de détruire complètement et rapidement en consumant. manger en rongeant, en déchiquetant, piquer abondamment, manger avec gloutonnerie, avec voracité, occasionner de la dépense complète de ou troubler profondément, tourmenter vivement. Ça, c'est qu'est-ce que Satan veut faire avec nous. Est-ce que vous avez l'idée, il n'est pas trop fin. Il est vraiment méchant. Et moi, je te dis, de plus en plus, je découvre que le diable est méchant. Il est cruel. Je dis cruel. Il aime faire souffrir les gens. Alors, est-ce que je dis tout cela pour vous faire peur? Non, je dis cela pour que vous puissiez tenir ferme contre ses ruses. Pour que vous ne soyez pas surpris. Parce que, laisse-moi vous dire, il rôde et il cherche ceux qu'il peut dévorer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout dévorer. Il peut dévorer seulement les hommes et les femmes qui lui donnent la permission de le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lui donner la permission? Non. Tanné, moi aussi. On est tanné. Moi, je suis tanné de voir les vies détruites. Tanné d'entendre les histoires, tanné de voir jusqu'à quel point Satan est méchant. Et moi, je pense que c'est le temps pour nous de se lever debout et dire non, ça va faire. Vous arrêtez là. Amen? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Vous avez un adversaire, il rôde, il cherche à vous dévorer. Mais qu'est-ce que nous sommes supposés de faire? Voilà, on va terminer avec trois points très simples. Trois choses que la parole de Dieu nous dit de faire qui va nous aider à tenir ferme. Et pas juste tenir ferme avec une attitude de beau, mais à n'importe quelle minute je vais fondre, à n'importe quelle minute je vais disintégrer. Non, mais de vraiment tenir ferme dans une position de force, d'une position d'autorité où on dit non, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je fais ici sur la terre, je suis plus que vainqueur et le diable a peur de moi. Première chose, numéro un, soyez sobre. Soyez sobre. Et on ne parle pas juste de ne pas consommer. Être sobre, c'est une attitude. Être sobre, c'est d'être conscient de ce qui se passe autour de nous à chaque moment. Être sobre, c'est d'avoir toutes nos facultés fonctionnelles. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. On est sobre. Vous savez que si on n'est pas sobre, c'est quoi le contraire d'être sobre? Des fois, on peut être enivré. Si quelqu'un est enivré, il n'est pas vraiment conscient toujours de qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui est enivré va faire des choses et par la suite, la première chose qu'on perd quand on commence à s'enivrer, c'est notre jugement. Notre jugement est tout en coup mis sur neutre. On fait les choses qu'on n'aurait jamais osé faire si on était sobre. N'est-ce pas vrai? Ou on voit les choses qu'on ne doit pas voir ou on ne voit pas les choses qu'on doit voir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, soyez sobre. Soyez sobre. J'ai toutes mes facultés. Je suis conscient de ce qui se passe dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Je suis conscient de mon environnement. Je suis sobre. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 6 dit, ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment. Et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. Alors, comment est-ce qu'on peut être sobre? On voit ici comment. On prend la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. Marcher dans l'amour, marcher ici, pas juste dans l'amour, mais marcher dans la foi, garder l'espérance. Et laisse-moi vous dire, vous allez rester sobre. Mais si vous commencez à donner place à l'amertume, à la colère, vous allez perdre votre état d'être, vous ne serez plus sobre. Moi, je sais c'est quoi d'être fâché ou en colère et de ne plus penser comme il faut. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi? Quand on est fâché, on dit les choses, c'est la même chose. On peut être enivré de colère. Et on est tellement en colère qu'on dit les choses que par la suite on regrette. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais jamais dû dire ça. Hein? Vous me suivez? Donc, comment est-ce qu'on peut rester sobre? Rester dans l'amour. Rester dans la foi. Garder l'espérance de notre salut comme casque. Ça va nous protéger. Amen? Soyez sobre. Et puis, c'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez sobre. Veillez. Veillez. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Et pourquoi? Verset 11. « Afin de ne pas laisser à qui? À Satan, l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses quoi? Des saints. » Savez-vous que votre adversaire, il a un plan de match? Votre adversaire, il a un plan de match. Et le plan de match pour vous et pour moi, dans un sens, c'est la même chose. C'est toujours une question de diviser et conquérir. Diviser, conquérir, n'est-ce pas? Il va diviser un mari avec sa femme et conquérir le mariage. Il va diviser les membres d'une église, conquérir le mariage. Diviser les employés dans un commerce, conquérir. Ça, c'est sa stratégie. Et c'est pourquoi le contexte de ce verset, Paul, il parle du pardon. À qui vous pardonnez, je pardonne. C'est le pardon qui est la clé de nous garder ensemble, n'est-ce pas? Pardonnez-vous réciproquement. Laisse-moi vous dire une chose, parce qu'il y a des gens qui posent toujours la question. Le pardon et la confiance ne sont pas la même affaire. Je vous dois le pardon, vous me devez le pardon, mais je ne vous dois pas la confiance, à moins que vous ayez prouvé que vous êtes digne de confiance. Amen? Dans le fond, le pardon, c'est pour vous. C'est pas pour l'autre personne. Savez-vous ça? Parce que si je garde rancune ou amertume, ça mange mon entraille. Mais si je pardonne, je relâche et je dis, OK, je ne suis plus, je ne vous tiens plus culpable pour qu'est-ce que vous avez fait, je vous pardonne. Je n'exige plus que vous soyez punis pour ce que vous avez fait. Je n'exige plus une punition. Mais cela ne veut pas dire que je vais mettre ma tête encore dans votre bouche pour que vous puissiez me la mordre. Allô, est-ce que vous me suivez? C'est quoi la confiance? J'ai entendu une définition de la confiance que j'ai beaucoup aimée. La confiance, c'est ma capacité de prévenir ce que vous allez faire dans le futur, basé sur ce que j'ai observé dans le passé. La confiance, c'est ma capacité de prévenir ce que vous allez faire dans le futur, basé sur ce que j'ai observé dans votre passé. La confiance ne se base pas sur les paroles, mais sur les actions. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, « Oh, désolé, je ne le ferai plus. Désolé, je ne le ferai plus. Désolé, je ne le ferai plus. » Il fait ça 70 fois, qu'est-ce que vous devrez faire? Pardonner 70 fois. Mais s'il se répand, pour vrai, on peut lui donner une chance de gagner notre confiance. S'il ne se répand pas, c'est son problème. Vous comprenez? Je sais pas pourquoi je dis cela, mais c'est important aujourd'hui. On a besoin de donner la chance aux gens de gagner notre confiance et de regagner notre confiance. Donc, une fois que la confiance est perdue, la seule manière de la regagner, c'est quoi? D'établir un historique qui est assez long des événements passés. Il faut créer une nouvelle passé. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on crée une nouvelle passé? Bon, je prends une décision. À partir d'aujourd'hui, je vais agir avec intégrité. Tu as vu ça? J'ai agi avec intégrité. Oui, j'ai vu ça. Tu as vu ça? J'ai agi avec intégrité. Oui, j'ai vu ça. Et on fait ça assez longtemps que je dis, mais tu sais quoi? Ça fait un bout que vous agissez de même. Moi, je sais qu'est-ce que vous allez faire. Demain, vous allez sûrement faire la même chose que vous venez de faire. Mais si quelqu'un continue à dire, oh, désolé, je ne le ferai pas, encore. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, on pardonne parce qu'on lui doit le pardon. Et ça ferme la porte à l'ennemi. On parle de comment tenir ferme. Satan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre les blessures, il veut prendre les offenses de quelqu'un d'autre et il veut que ça mange votre intérieur et à travers cette blessure et cette offense, il veut avoir accès à votre cœur, à votre être, pour vous dévorer. Mais on dit non, j'ai pardonné, Satan, tu n'as plus accès. Amen. Donc, continuons. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Savez pourquoi? Il est possible d'être en colère sans pécher. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas, quoi? Accès au diable. Et plus que jamais, je vois combien on ne peut pas donner accès à Satan. Parce qu'il veut faire une chose, il veut dévorer. Il a l'air très gentil. Hein, c'est comme, comment est-ce qu'elle s'appelle, Capuchon Rouge? Tu sais quoi? Moi, j'ai la conviction. Tous ceux qui viennent à la vie comblée, ils sont en santé. C'est pas parce que un cœur joyeux, c'est un bon remède. Venez m'écouter, je vais faire plein de fautes, vous allez pouvoir rire et vous serez plein. Vous allez vivre à 120 ans, pas de problème. Ça va être merveilleux. Comment est-ce qu'on appelle cette fille, Robin? Oh, ben, Little Red Riding Hood. C'est une anglophone cette fois-ci, Little Red Riding Hood, ok? Tout le monde dit Little Red Riding Hood. Ah, c'est bien! Mais elle arrive. Grand-maman! Elle a l'air toute douce et gentille et fine et sympathique et... Mais en arrière de ce costume, de ce déguisement, il y a des dents. Et un appétit. Et un loup qui veut dévorer. Et c'est pourquoi il ne faut jamais donner accès à Satan. Même pas pour une minute. Je l'ai dit, même des fois, tout le monde qui vient à l'église régulièrement, vous pouvez le citer avec moi. Mais si vous invitez le diable pour souper, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive avec son pyjama. Il va rester la nuit. Et puis, et si tu regardes par la fenêtre, il y a un camion de déménagement. Pyjama, salut, monte-moi ma chambre, s'il te plaît. Oh, oublie ça, je prends toute la maison. Et il commence à changer le décor. Il commence à faire les rénovations. Tout change, tout d'un coup, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? La parole est claire. Soyez sobre, veillez, et puis résistez-lui avec une foi ferme. J'ai 4 minutes. Mais je vais le faire dans 4 minutes parce que je l'ai dit. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne peut pas résister le diable sans être soumis à Dieu. Mais quand on résiste le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir. Et dans la langue originale, ça veut dire qu'il va prendre la fuite comme étant terrorisé. Laisse-moi vous dire, Satan a peur d'un homme et une femme qui connaît sa position dans Jésus-Christ, qui connaît sa justice, qui connaît le nom de Jésus et qui est capable de dire, au nom de Jésus, Satan, arrière de moi ou ôte-toi de là, au nom de Jésus, il va prendre la fuite et là, laisse-moi vous dire, c'est lui qui va shaker. Est-ce qu'on peut dire shaker? Non? C'est pas grave, vous comprenez? C'est lui qui va brasser, qui va... Tremblez, merci. Ah, merci. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir quoi? Ferme après avoir tout surmonté. Je vous encourage à lire Éphésiens 6 et voir toute l'armure de Dieu qui nous est disponible. On va se lever debout et je vais garder ma promesse. Je dis avant midi, les midi moins 4. Alléluia, on va prier ce matin. Hallelujah. Je pense qu'on a besoin de ce message. De savoir que nous avons un adversaire. Il veut nous dévorer. Mais on n'est pas obligé de lui donner notre lunch ou d'être son lunch. Amen. Ni l'un ni l'autre. Hallelujah. Seigneur, merci. On va être sobre. Combien de vous voulez être sobre? Vous allez veiller et vous allez résister le diable quand il vient. Comment est-ce qu'on résiste? On se soumet à Dieu, mais on résiste avec la parole. Jésus, il a été tenté dans le désert par Satan. Il a chaque fois, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça, c'est comment nous résistons le diable aussi. On n'a pas le temps d'aller en détail, mais vous connaissez votre Bible, méditez-la, mettez-la en pratique. Seigneur, merci. Merci que ce matin, nous avons la joie et l'honneur d'être tes enfants. Merci, Seigneur, que tu as mis à nous cette parole. Merci que nous ne sommes pas ignorants des desseins de l'ennemi. Nous savons que nous avons un adversaire qui est rusé, qui veut nous dévorer, mais on refuse de lui donner accès à notre vie. On ne joue pas avec le feu, on ne joue pas avec le diable. On est sobre. Tout le monde dit, je suis sobre. Je vais. Et je résiste le diable. Au nom de Jésus. Juste avant de partir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Qu'il a pas déjà, on a déjà un jeune homme qui l'a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste lever la main. On va prier pour vous. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Prie avec moi. Père Céleste, je te remercie. Je suis ton enfant. Et merci Seigneur que Jésus a déjà vaincu mon adversaire. Je suis sobre. Je veille. Et je résiste l'ennemi et il prend la fuite au nom de Jésus. Amen. Donc, louons le Seigneur. On se verra mercredi soir 19h pour notre série sur la guérison divine. Amen. Bon, chantons et louons le Seigneur.